Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Bonjour. Nous allons donc passer trois quarts d'heure environ à vous parler de sport. Cela nous fait plaisir, bien sûr, et nous espérons que cela vous intéressera. Nous, c'est-à-dire Jean Dury et Maurice Sarfati. Alors Jean Dury, qui êtes-vous?
Au départ, j'étais un juriste. Ça n'a vraiment rien à voir avec le sport. Mais le sport est une chose qui m'a toujours passionné. Ça m'a passionné comme spectateur, parce que l'effort du sport est beau. Ça m'a passionné comme bibliophile. J'ai vraiment une bibliothèque sur le sport extrêmement importante. Et puis ça m'a passionné comme acteur. Et alors je suis un coureur cycliste. Et ça c'est une chose à laquelle je tiens énormément parce que j'ai beaucoup souffert sur les routes, même si je n'ai pas atteint un niveau exceptionnel, loin de là.
C'était Jean Dury sur l'antenne de France Culture à l'automne 1969, oui, il y a donc tout juste 50 ans. Et ce soir, sur l'antenne de France Inter, Bon Pied, Bon Oeil, L'Allure Alerte et L'Œil Espiègle, cet écrivain original au sens du littré, c'est-à-dire qui agit et se comporte sans imiter personne. Eh bien, cet historien du sport à nul autre pareil nous rend visite, oui, et j'en suis très heureux. Jean Dury, bonsoir.
Bonsoir, mais c'est moi qui suis très heureux d'être ici et d'avoir entendu ce son que je ne me rappelais plus du tout.
Eh bien, nous y voilà. Bienvenue, Jean, j'en suis ravi. Pendant des décennies, le sport et son histoire sont restés assignés à résidence aux confins de la société et surtout bannis de l'université. Or, nous allons passer une heure avec vous, Jean Dury, vous qui avez osé penser à une époque, dès le début des années 60, que l'avenir serait différent et qu'il fallait collecter, conserver, protéger la mémoire du sport. Est-ce que vous vous considérez comme un pionnier, Jean ?
De fait, je l'ai été quand on m'a chargé d'une mission qui était de fonder un musée des sports en 1963. À ce moment-là, tout était à faire. Il y avait eu un embryon dans l'entre-deux-guerres qui avait disparu, qui s'était évanoui, et nous partions de zéro.
Eh bien voilà, nous allons parler de ça ce soir, évidemment, ensemble. Jean Dury, écrivain, historien du sport, une mémoire vive du XXe siècle. Il s'installe ce soir dans cette émission qui vous raconte la grande et la petite histoire du sport. L'œil du tigre, c'est parti.
L'œil du tigre, Philippe Collin, sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence cette émission, une fois n'est pas coutume, avec un anniversaire. Demain, lundi 28 octobre 2019, il y aura tout juste 70 ans que Marcel Cerdan est mort dans ce crash aérien au-dessus des Açores. Et voici comment le lendemain, en 1949 donc, sur les ondes de l'ORTF, on rendait hommage à ce mythe français qui, rappelons-le, offrit au peuple de Paris en 1942 l'occasion de chanter la Marseillaise sous l'occupation allemande, fait rarissime évidemment à l'époque après son combat victorieux au Veldiv contre le boxeur fasciste José Ferrer. Marcel Cerdan, boxeur à la classe éternelle, in memoriam.
La brasserie de Marcel Cerdan à Casablanca est fermée. Le grand champion n'est plus. Il gagna sa renommée dès ses premiers matchs au Maroc. Acceptant toujours la bataille, il l'a terminée d'un geste sec. Sur tous les rings du monde, il fut un grand vainqueur. Après 113 combats sans avoir connu une seule défaite régulière, Marcel Cerdan signait le match pour le titre de champion du monde. Après sa victoire sur Tony Zell, il avait connu à Paris une réception triomphale. Tout un peuple avait crié sa joie. Cette joie qui éclate chaque fois que l'on sait que l'un des siens est le meilleur du monde. Son premier combat, après avoir conquis le titre, l'opposait à Dick Turpin, à Londres. Là encore, Marcel Cerdan devait foudroyer son adversaire. Il avait reçu la consécration officielle de l'admiration générale, des mains même du président de la République, et c'est dans l'or d'une plaque que sont gravés aujourd'hui le souvenir, l'émotion et la douleur de ceux qui n'oublient pas Marcel Cerdan.
She's My Sunshine, une chanson signée Céleste. Direction maintenant la mémoire du sport à travers un homme original. Voici l'histoire du dimanche soir. Qu'est-ce qui pousse un homme à emprunter le chemin d'un désert où il risque, en plus de s'y perdre, des colibés, des avanies ou au mieux, un mépris poli? Sa conviction, son désir, ses rêves. Jean Durie appartient à cette catégorie des avant-gardistes. Môme de Paname, né avant-guerre, Jean Durie se prédestinait à devenir juriste. Et puis il a bifurqué. D'abord à vélo, et ensuite dans sa tête d'écrivain, où a germé l'idée que le sport pouvait être ausculté sous l'angle culturel, historique, patrimonial. Et il fut sans doute le tout premier en France à oser penser qu'un jour, le sport mériterait qu'on écrive son histoire, un récit épique, découpé en chapitres.
Alors, le titre de notre chapitre, Jean Durie, c'est « Giraudoux et le sport ». Cet idéal chevaleresque de Giraudoux, fait d'équilibre, de santé, de fair-play, de richesse, de race, de beauté, est-ce que vous le faites vôtre dans la pleine chaleur de l'action? Ou est-ce que le désir de gagner, la rage de gagner qui nous prend tous au cours d'une activité sportive, vous sur votre bicyclette et moi avec mes copains de l'équipe de rugby, est-ce que tout ça, cette rage de gagner ne déforme pas cet idéal, quelquefois?
C'est évident que quand on est sur la bicyclette, en plein effort, on pense à l'effort lui-même. Mais si vous voulez, et là nous rejoignons Giraudoux, il a lui-même admirablement résumé ce qu'avait été le sport. Pour lui, lorsqu'il dit de quelque façon qu'on cultive corps ou esprit, la même méthode en retire des gains correspondants, et puis ce qu'est le sport pour nous tous. Et l'essence du sport tient dans cette phrase extraordinaire qui, je l'avoue, sert un peu de ligne de vie au coureur cycliste que je suis et pour être le mot de passe avec le rugbyman que vous êtes, j'aime couper le sprint, ma marche vers la mort. Car pourquoi le sport? Pourquoi ces efforts désespérés pour des records toujours éphémères, pour les victoires d'une fourmi sur d'autres fourmis humaines? Pourquoi? Eh bien, pour une raison magnifique et toute simple, j'aime couper le sprint, ma marche vers la mort.
J'aime couper le sprint, ma marche vers la mort. Une ligne de vie magnifique, Jean Durie, empruntée à Jean Giraudoux, l'écrivain, le diplomate. Nous étions à l'époque là sur l'antenne de France Culture en 1969. Ce soir, Jean, nous sommes tous les deux sur l'antenne de France Inter 50 ans plus tard. Jean, qu'est-ce que ça évoque pour vous aujourd'hui, cette phrase de Giraudoux que je répète, que j'adore? J'aime couper le sprint, ma marche vers la mort.
Oui, bien, c'est simplement que sous une forme aussi concise, aussi fine, c'est extraordinaire de saisir et de transmettre la signification profonde du sport, parce que il y a à la fois le dérisoire et le pathétique, et il y a ce sentiment tout à fait étonnant de la vanité des choses, mais en même temps, on s'y livre entièrement, tout en ayant du recul et en se prenant au jeu sans en être dupe. Et d'autre part, ce début de notre dialogue m'amuse, parce que, bien sûr, c'est la voix de Maurice Sarfati,
comédien français, qui travaille avec vous sur France Culture.
Et c'était au moment où on lançait une émission Le Sport et l'Homme, dont
sans doute
nous parlerons. Mais le petit portrait que vous avez fait au départ mérite évidemment quelques bémols. Quand on dit que j'étais juriste au départ, je l'étais presque
par... Vous étiez en chemin
oui,
pour devenir juriste.
Je l'étais presque par hasard, parce que mon frère, que j'aime énormément, mon frère Georges étant un grand juriste, moi-même j'avais une âme d'historien, et donc je me suis dirigé vers une licence de droit public international. Mais ce n'était pas ma voie. Et il s'est trouvé que le sport a été mon chemin original, comme
alors,
vous dites.
Alors, Jean Durie, vous êtes né en 1936, votre père était un grand professeur d'université à la Sorbonne, un latiniste, votre mère une grande poétesse française reconnue, Marie-Jeanne Durie. J'imagine que le sport n'était pas forcément la culture familiale. Comment est entré le sport dans votre vie, Jean Durie?
Oui, alors tout de même, un de mes livres qui s'est appelé très spirituellement « L'encyclopédie » est dédié à mes deux parents, et en particulier à mon père, qui... parti d'un petit village de Franche-Comté, le nôtre, et son village natal, après 3 heures de vélo sur sa bicyclette rouge, atteignit le sommet du ballon d'Alsace à 8h50, un jour de 1913. Donc, il y avait un contexte qui était pas du tout défavorable au sport. Mais le hasard, et c'est rare qu'on sente le déclic qui a finalement orienté toute une vie, a voulu que je sois tombé vers l'âge de 10 ans sur une année complète du Miroir des Sports. Et dans cette année complète, il y avait les souvenirs d'André Leduc, ma vie sportive. André Leduc avait gagné les Tours de France 1930 et 1932, et ses souvenirs, recueillis par le journaliste Raymond Huthier, étaient pittoresques, picaresques, et à l'âge de 10 ans, je déclarais, quand je serai grand, je serai coureur cycliste. Ce que je fus à un niveau modeste, mais que je fus réellement.
Mais Jean, quand ce désir chevillé au corps est devenir cycliste du petit garçon de 10 ans, vous vouliez devenir un grand champion? C'était l'ambition de départ?
Ben, tout le monde, au départ, a son maillot jaune dans sa musette, bien entendu. On rêve de... Puis ensuite, les réalités de la route...
Mais c'était quoi, Jean, au départ? Une sorte d'idéal chevaleresque, héros du temps présent? C'était des grands héros, les cyclistes, dans les années 30,
oui,
et 40 et 50.
Oui, bien sûr, mais j'ajoute que mon frère Georges, dont je reparle, m'avait emmené tout petit sur les gradins de Saint-Ouen voir le bon vieux Red Star, celui du temps de Fred Aston et de Simoni, grande équipe...
Là, on parle de football.
Qui
hein.
survit toujours. Mmh. Mais oui, mais c'était ça qui m'amenait petit à petit vers le sport. Et puis, tout de même, juste après la guerre... renaît le Tour de France, symbole des temps heureux, et donc
oui, c'est une époque. C'est une époque, un petit garçon revoit le Tour de France, et du coup on est embarqué dans ce désir et dans cette folie. Évidemment. Vous dites souvent, Jean, dans vos écrits, dans vos livres, que le fil rouge de votre vie, ça pourrait être cette petite phrase, le sport, virgule, culture vécue. Est-ce que ça veut dire que le sport doit aussi s'éprouver quand on veut devenir un coureur cycliste à l'âge de 10, 12, 15 ans et qu'on veut éprouver le sport? Est-ce qu'on doit aussi éprouver le sport physiquement dans son corps?
Dire que le sport est une culture vécue, ça veut dire que c'est une culture incarnée et qui nous enracine dans le tangible, le concret, avec une intensité de sensations extraordinaire. Intensité physique, on le pense immédiatement, mais intensité spirituelle. Alors ensuite, encore une fois, si on se place à l'âge de 10-12 ans, tout cela, ce sont des constructions de l'esprit, mais on a envie, parce que il y a toujours une controverse maintenant, entre les gens qui disent « le sport commence dans la plus haute antiquité », mais les autres disent « le sport est né avec l'Angleterre industrielle du 19e siècle et ça n'a aucun rapport ». Or, je professe tout simplement que l'instinct du jeu et la volonté de compétition sont inhérents à l'homme. Et je vous en donne un exemple. Mon petit-fils Eden, j'arrive encore à le battre au ping-pong sur la bonne vieille table en bois de la Franche-Comté. Mais il n'a qu'un rêve, il a 12 ans maintenant, il n'a qu'un rêve, c'est de me battre. Et l'animal, il est en train actuellement de prendre des leçons dans un club de ping-pong et je crois que mon règne va bientôt s'achever.
Pour vous battre, Jean Durie, pour vous battre au ping-pong avec votre petit-fils. Tout à l'heure, on évoquait, il y a quelques instants, ce André Leduc, grand champion cycliste du XXe siècle.
Extrêmement populaire.
Populaire, double vainqueur du Tour de France, 1930-1932, vous l'avez dit, Jean. On va l'écouter, là, face à Yves Mourouzi. Nous étions en 1974.
Comment s'est passée votre première course, votre première compétition, André Leduc? Vous vous souvenez de ça?
Oh là là, ma première de tout, c'était pendant l'autre guerre. Alors vous voyez, c'est pas d'hier. J'avais 14 ans. Ça se courait sur Saint-Germain-Mézières et retour. Vous voyez, c'était pas loin. Ça faisait à peu près 50 kilomètres, même peut-être pas, quoi. Nous étions 400 au départ, j'ai fait 86e.
Quand même déjà une belle performance.
C'était la première, j'avais 14 ans.
Oui, et il y avait des départs de course avec 400 coureurs au départ.
Ah oui, 400 et 500 tous les dimanches, c'était courant. Les courses de maintenant sont plus courtes d'abord, mais beaucoup plus rapides. Il y a des étapes du Tour de France qui partaient à 10h du soir et qui arrivaient le lendemain à 5h. Alors ça change un petit peu, maintenant ils font des étapes qui durent 4h.
Alors quand André Leduc dit l'autre guerre, c'est la première guerre mondiale, il faut bien avoir ça en tête, c'est assez incroyable.
Oui, et alors on entend son accent faubourien parce qu'il a été né à Saint-Ouen, mais il a vécu toute son enfance à Montmartre, et c'est en descendant la rue Le Pic qu'il a perfectionné ses talents de descendeur qui ensuite l'ont beaucoup aidé dans sa carrière. Et André Leduc, donc pour moi, je rêvais un jour de le rencontrer, mais en même temps, j'hésitais de peur d'être déçu. Et un jour, il s'est trouvé que dans une réception, il y avait André Leduc... Il avait un livre sous le bras et il allait de groupe en groupe en disant « Oh les gars, Il y a un bouquin formidable. Et il se trouvait que c'était mon premier livre, La véridique histoire des géants de la route. Et donc, bien sûr, magnifique. On a fait connaissance et il est devenu plus qu'un ami.
Mais je vais dire à nos auditeurs, Jean Durie, qu'au moment où le son est parti et que vous avez entendu sa voix, vous aviez l'air ému et heureux d'entendre la voix d'André Le Duc.
Oui, parce que ensuite, on a vécu des aventures ensemble et en particulier, et à ce moment-là, je m'occupais évidemment de rassembler des collections pour le Musée National du Sport, le futur Musée National, et il m'a conduit lui-même chez la veuve de François Faber, le géant de Colombes, vainqueur du Tour 1909, et mort à la guerre de 14, dont on n'a jamais retrouvé le corps, parce que bien que luxembourgeois, il s'était engagé dans la Légion étrangère. Et André avait gardé une grande admiration pour Faber, des liens avec sa veuve, qui avait plus de 90 ans, et que nous avons été voir ensemble, et qui m'avait donné pour le musée des pièces absolument extraordinaires. Dont un petit tournevis, ou plutôt une clé anglaise dont je me suis servi à la veille de la première inauguration des galeries du musée.
Alors Jean, pour que les auditeurs comprennent bien qui vous êtes, là, André Le Duc fait œuvre de témoignage. Il raconte ses souvenirs, des histoires du XXe siècle du coureur cycliste. Donc pour bien comprendre qui vous êtes, Jean, vous vous êtes dit, vous, à un moment donné de votre vie, il faut collecter les archives du sport, il faut entretenir la mémoire du sport, il faut écrire le sport. À une époque, Jean, où personne ne s'y intéressait vraiment, il faut le dire, qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire « moi je pense qu'il est important d'entretenir la mémoire du sport » ?
Je ne me suis pas du tout dit ça. Il s'est trouvé qu'à la fin de mon service militaire, on m'a présenté, et mon père y a joué d'ailleurs un rôle, au colonel Marceau Crespin, qui était à l'époque délégué de la préparation olympique auprès de Maurice Herzog, et qui, cet homme qui avait été un enfant de troupe et qui était du village de Chirac en Lozère, dont il était le maire et la haute figure, avait l'idée de créer un musée des sports. Et donc, on m'a présenté à lui, il y a une période réciproque de 3 mois, il a dit « ça c'est l'homme qu'il me faut », moi j'ai dit « c'est une des choses que je ferai dans ma vie », et effectivement je suis resté près de 4 décennies à la fondation et à la direction de ce musée, ce qui était un grand bonheur et une chance pour moi, parce que créer quelque chose et avoir l'idée de donner un musée du sport à son pays, ce n'était pas rien, et ainsi ma vie est partie comme ça.
Jean, quand on vous charge de fonder ce musée national des sports, nous sommes en 1963, si je ne dis pas de bêtises, c'est quoi l'ambition du gouvernement d'alors ? C'est quoi le désir de créer ce musée national des sports ?
À l'époque, le colonel Crespin, j'y reviens, à lui l'idée que ce serait important. Et très vite, je vais avoir la chance de rencontrer l'un des génies que j'ai rencontré dans ma vie, Georges-Henri Rivière, l'homme qui a créé le musée des arts et traditions populaires, les écomusées, etc. Et avec lui, nous imaginons très vite, parce que c'était une mission exploratoire au départ, non pas du tout un musée qui serait une vitrine aux fétiches, un amoncellement d'objets, ça c'est ce que font les collectionneurs, mais un organisme qui jouerait le rôle d'un musée, c'est-à-dire réunir, préserver, montrer au public ce qui serait alors la constitution d'une mémoire et d'une histoire du sport. Et voici comment les choses démarrent.
Et donc pendant 38 ans, vous avez dirigé en effet cette institution, ce musée national des sports, ce musée des sports en France, le premier du genre. Aujourd'hui, ce musée a été transféré à Nice. Vous avez rassemblé, je crois, Jean, en tout plus de 100 000 objets. La collection est monumentale.
Alors, d'abord, vous dites musée des sports. Et justement, dès le départ, nous avons dit musée du sport, ce qui est tout à fait différent. Pas l'empilement de diverses disciplines, mais vraiment un essai de saisie de ce qu'est l'insertion et l'importance du sport, petit à petit, dans la vie de la société française. Et alors, effectivement, on partait du point zéro. Au bout d'une année, les premières collections tenaient, elles ont été photographiées sur un tapis qui est de Béthune dans les Saint-Louis chez mes parents. Et j'ai rassemblé non pas du tout 100 000 objets, mais quelques 100 000 documents et objets du XVIe siècle à nos jours et allant, par exemple, jusqu'au ballon qui était sur le terrain au moment où l'arbitre siffle le 12 juillet 1998, la fin de la finale de la Coupe du Monde. Et chacun des objets en question aurait une histoire. Ainsi, il m'a fallu 1 an pour retrouver la trace de ce ballon que j'ai arraché de justesse alors qu'il était déjà quasiment en vente chez Christie's à Glasgow sur un catalogue.
Mais vous l'avez récupéré du coup.
Oui.
Et il appartient à la collection à la France. Ce qui est important avec cette collection, Jean, c'est que c'est une histoire populaire de la France. Effectivement, ce n'est pas qu'un amas de collections d'objets, ça raconte... Alors, 4 siècles, hein, du 16e au 20e, mais surtout le 20e siècle et le 19e, c'est à travers cette collection, on peut retracer une histoire populaire de la France.
Oui, parce que, à partir du moment où on a des objets, on a quelque chose qui n'est pas uniquement du virtuel. Mais à partir de ça, on va montrer l'évolution des conditions de pratique. Il ne s'agit pas d'empiler les maillots, les dossards, les shorts. Non, mais on voit petit à petit l'évolution des équipements. Et d'autre part, on voit petit à petit le sport prendre cette importance, puisqu'avant la guerre de 14, il n'a rien d'officiel, qu'après la guerre de 14, où les sportifs ont joué leur rôle dans la grande victoire, l'État commence à prendre les choses au sérieux. Il faut tout de même attendre 1936, tiens, c'est l'année de ma naissance, l'année du Front Populaire, pour que Léo Lagrange soit le premier vrai, alors qu'il n'est que sous-secrétaire d'État, mais le premier ministre des Sports. Et il va être accusé par la droite d'être le ministre de la paresse. Parce que dans la notion de sport, il y a compétition, mais il y a aussi loisir. Et ce sont ces images merveilleuses des gens partant à tandem vers la mer qu'ils n'avaient jamais vue, etc., etc. Et puis, on va aller progressivement vers le sport d'aujourd'hui, avec toute cette évolution extraordinaire qu'on se doit constamment d'observer et d'analyser.
Jean, vous venez parler d'aujourd'hui, le mot aujourd'hui, je me dis que vous êtes un grand humaniste, Jean Durie, vous êtes un Européen convaincu, je le sais. Est-ce qu'aujourd'hui le sport ne mériterait pas un grand musée européen du sport? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est une culture partagée aujourd'hui, le sport, au niveau européen. C'est pas évident d'avoir une culture partagée en Europe aujourd'hui. Le sport l'est. C'est quelque chose qu'on partage entre nous tous. Le football est un grand vecteur de culture européenne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un grand musée du sport européen à créer?
Je ne vois pas du tout ça comme ça, parce que le sport n'est pas seulement une culture européenne, c'est une culture mondiale. Oui. Et bien entendu, quand nous faisons l'histoire ou la mémoire du sport en France, c'est dans le contexte international qui est une des caractéristiques du sport. Parce que dans le sport, ce qui est une des choses importantes, c'est que c'est l'un des rares langages communs aux hommes de cette planète. Et vous ne connaissez pas, ou quasi pas, de grandes fêtes qui soient aujourd'hui à l'échelle de l'humanité ce que sont les cérémonies d'ouverture, de clôture des Jeux Olympiques ou bien une Coupe du Monde de football. Donc, il me paraît tout à fait logique qu'il y ait des musées à un niveau national, parce que les histoires sont toutes spécifiques, mais que d'autre part, ce soit ce contexte mondial et pas seulement européen qui développe ce que vous évoquiez.
Alors, c'est la fin du premier chapitre de notre discussion, Jean Durie. On se retrouve dans quelques minutes après le retour de l'orchestre sur Inter, dirigé cette fois par Alex Baupin. Le titre joué, pas plus le jour que la nuit, ainsi soit-il.
Pourquoi, pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche? Pourquoi ai-je glissé ma langue? Je m'en mords les doigts, j'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi, pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts, je suis parti tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix.
Je passe la parole à mon éminent collègue Jean Durie.
Si vous ouvrez le dictionnaire de Littré au mot sport, vous trouverez la définition suivante. Sport, toute espèce de jeu ou d'exercice en plein air. Vous voilà bien renseigné. Alors, quand on donne dans une salle un assaut de boxe ou d'escrime, ni les boxeurs ni les escrimeurs ne font du sport parce que leurs exercices n'ont pas lieu en plein air. Donc, la définition de Littré ne vaut rien. N'essayons pas d'en chercher une autre, nous perdrions notre temps.
Philippe Collin, sur France Inter.
Jean Duris, pionnier comme historien du sport, fut aussi avant-gardiste dans la sphère médiatique. Accompagné du comédien Maurice Sarfati, ils ont produit sur les antennes de France Culture pendant 3 saisons, de 1969 à 1971, une émission novatrice, on vient d'entendre un extrait à l'instant, la toute première du genre, où il était question, voyez-vous, d'entremêler la culture et l'histoire du sport, autant dire que nous descendons en droite ligne, nous, ici, de cette émission. Nous sommes les enfants de cette création radiophonique qui s'intitulait à l'époque « Le sport et l'homme ».
Alors Jean Duris, cette presse sportive, elle a commencé quand? Comme toutes les choses du sport, vers 1900, je suppose.
Eh bien non, ça a commencé, Maurice Sarfati, beaucoup plus tôt que cela. Je ne parle pas des journaux anglais, mais en France, en 1854 déjà, un certain Eugène Chaput a lancé un journal qui s'appelait Le Sport à Paris, mais qui était un journal très mondain. On va s'amuser un petit peu, Maurice, à faire un historique des tout premiers journaux, et la plupart des renseignements que nous évoquerons, ils sont dans le livre d'Edouard Sedler sur le sport et la presse. C'est le 24 octobre 1868 à Foix, dans l'Ariège, qu'est paru le premier numéro du Vélocipède. C'est en effet le Vélocipède, antérieur au Grand Bi, qui a suscité la véritable première presse spécialisée,
mais
presse très nombreuse.
Ça s'est clivé avec la Charles, le Vélocipède, je suppose.
Oui, mais il y en a eu un autre à Grenoble, en mars 1869, et puis le Vélocipède illustré, et si vous voulez, la vedette de cette presse-là, ça a été la Bicyclette, qui, en 1894, atteignait déjà 20 000 exemplaires.
Le sport et l'homme, émission sur France Culture, rendez-vous compte, à la fin des années 60, où on parlait de sport. Jean Duris, quand j'ai créé cette émission ici en 2015, L'œil du tigre, avec le soutien de Laurence Bloch, la patronne d'Inter, je pensais que j'étais un peu le premier à créer une émission de ce genre, très modestement, sur les antennes de Radio France. Et puis j'ai découvert que non, pas du tout. Vous étiez déjà passé par là, donc c'est une belle leçon d'humilité. Et donc je me suis trompé, hein. Il y avait eu donc le sport et l'homme avant nous, ici à l'œil du tigre, sur France Culture, encore une fois, rendez-vous compte. Jean Duris, quelle était votre ambition avec Maurice Sarfati quand vous avez lancé cette émission en 69 sur France Culture?
Alors tout à l'heure, on a entendu, enfin moi je l'ai entendu en tout cas, les mariachis. C'était le son des Jeux Olympiques de Mexico 68 qui était tout récent. Et donc ça m'a ramené à cette émission. Cette émission qui effectivement a duré 3 ans, 55 émissions de 30 à 45 minutes sur les thèmes les plus variés. Et par exemple, je me rappelle avoir fait écouter aux auditeurs de France Culture une émission de 45 minutes qui s'appelait Anatomie du demi-fond derrière grosse moto, la seule émission de France Culture qui ait jamais été écoutée au quartier des coureurs de la piste municipale dite la Cipale, mais où tout de même on parlait de Hemingway, de Julien Gracq, et puis on entendait un autre titi parisien, Toto Grassin, qui avait été le roi du Veldiv derrière moto, et je me souviens encore de la scène où Toto Grassin, qui était irrésistible, faisait rire aux larmes Haroun Taziev, qui lui était venu enregistrer une séquence sur la peur du boxeur, parce que Taziev avait été présélectionné olympique en Belgique pour les Jeux de 1936. Alors, l'idée, c'était toujours la même, et c'est celle qui m'a toujours guidé, y compris ensuite dans les chroniques régulières que j'ai eues aux informations de France Culture, à l'initiative de quelqu'un qui était tout à fait remarquable et qui fut le rédacteur en chef à l'époque, qui s'appelait Robert West. L'idée, c'est de décrypter, d'expliquer, d'essayer de faire ressentir, comprendre, peut-être aimer le sport. C'est-à-dire de dire les bonheurs du sport, mais bien entendu en ayant toujours une analyse aussi lucide que possible de son histoire et de sa constante évolution. Voilà ce qui m'a guidé, si vous voulez, sur ce trajet-là.
Jean, c'était 69, donc il y a un petit bout de temps. Vous étiez un peu tout seul dans le paysage à l'époque. Aujourd'hui, quand vous voyez une émission comme la nôtre, vous voyez le magazine SoFoot, par exemple, vous voyez Thierry Frémaux, qui à Lyon a créé un festival assez fantastique qui s'appelle sport, littérature et cinéma qui se tient en mars. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez tout ça arriver depuis 10 ans, 15 ans? Vous étiez très en avance, Jean, dans cette idée.
Oui, non, mais je ne pense pas du tout à ça. Mais simplement, je constate que le sport, maintenant, est devenu, qu'on le veuille ou non, qu'on s'y intéresse ou non, qu'on l'aime ou non, un des secteurs de l'activité humaine et de la vie de ce pays. Donc, très logiquement, des choses se sont développées et l'œil du tigre en est un très très bel exemple.
Eh ben, merci beaucoup, ça me fait très plaisir que vous disiez ça, Jean-Louis. Puisqu'on évoque la radio, je vais vous faire écouter une autre archive sonore, qui est le commentaire sur les ondes du combat de Cerdan contre Tony Zale en 1948.
Cerdan a encaissé ce direct du gauche et il réagit maintenant très violemment par des crochets du droit et du gauche au visage et au corps. Corps à corps, séparation par l'arbitre. Attaque de Zale par un crochet du gauche. Il a dégagé sa garde et Marcel a placé deux terribles crochets du gauche et du droit. Corps à corps, séparation par l'arbitre. Attaque de Cerdan par deux très violents crochets du gauche. Ça y est, Zale est au sol. Zale est au sol. C'est pas, je crois, un crochet du gauche que, à la droite, contre les cordes, Tony Zale a été touché et s'est affalé à genoux. Il est ramené dans son coin. Le match, par décision de l'arbitre, est terminé. Marcel Cerdan est champion du monde. Bravo Marcel!
Bravo Marcel, le son crépite évidemment. Jean Duris, c'est un son qui a 70 ans. Je rappelle que demain, il y aura 70 ans que Marcel Cerdan est mort en effet dans ce crash aérien au-dessus des Açores. Dans l'histoire du sport, la radio a son importance. C'est une archive sonore, là on entend, c'est quasiment du brut. C'est-à-dire qu'il faut imaginer tous ces gens en pleine nuit qui écoutent derrière le poste la victoire de Marcel Cerdan, champion du monde contre Tony Zale.
Oui, ça me touche beaucoup. Parce que nous étions dans la nuit du 21 au 22 septembre. Il était 22h13 aux États-Unis, 3h13 du matin quand le combat commence. Et dans cette maison de Franche-Comté à Tavé que j'évoque depuis le début de l'émission...
Le pays de Montbéliard.
Je descends l'escalier de bois, dont la 7e marche craque encore de nos jours, pour éviter de réveiller les parents. Et je vais écouter sur le petit poste de TSF, cette retransmission. Le malheureux Pierre Crenet, c'était le délégué général de la radio aux États-Unis. Il connaissait pas la boxe, mais il a fait de son mieux. Et là, nous sommes au moment où Cerdan, droite-gauche, à la fin de la 11e reprise, cueille Tony Zale, qui était de 3 ans son aîné et qui était le tenant du titre des points moyens. Zale fait signe qu'il n'en peut plus. L'arbitre Paul Cavalier, à ce moment-là, dit que Cerdan est champion du monde. Et alors, je sors de la maison en courant.
À 3h du matin.
À 4h du matin, parce qu'il y avait eu 12 reprises et 11 minutes de repos, donc c'était à peu près 4h du matin. Je suis sur la grande nationale Strasbourg-Besançon-Lyon, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de poids lourd, on pouvait... Je suis dans le petit matin, je veux dire aux gens de Tavé, Cerdan est champion du monde. Et j'étais seul.
Seul.
Il n'y avait personne. Ah. Mais ce match a eu un retentissement extraordinaire, parce que c'était le réveil de la France après la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça que Cerdan, qui d'autre part était quelqu'un évidemment de chaleureux et tout à fait étonnant, a été si populaire.
Et bien sûr, un héros éternel français. Jean, en préparant cette émission, je vous ai demandé aussi de réfléchir à des sportifs qui avaient pu marquer votre vie, qui comptaient à vos yeux.
Oui.
Et vous nous avez dit, il y a un duo qui m'intéresse, c'est Mimoun Zatopek, surtout Zatopek. Donc on va écouter Alain Mimoun, qui, dans une archive sonore, là encore, où il évoque justement sa rivalité avec Zatopek.
Il m'avait battu pendant 2 Jeux Olympiques et j'ai pris ma revanche 12 ans après à Melbourne.
Et il a été heureux et il vous a félicité.
Oui,
ce jour-là.
Zatopek a été heureux comme si c'était lui qui avait gagné. D'ailleurs, il ne savait même pas, puisqu'il arrivait 6e, il ne savait pas. Et lorsque je me suis dirigé vers lui, et je lui ai dit, Émile, tu ne me félicites pas, mais je suis champion olympique, c'est moi qui ai gagné le marathon. Alors je vois mon Zatopek qui se met au garde-à-vous, qui lève sa petite casquette comme pour saluer un drapeau et il me donne l'accolade. Et il me dit vraiment, je suis très 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 heureux pour toi, tu le mérites beaucoup, qu'il me dit comme ça.
Alors Jean Durie, il y avait 1000 occurrences hein, en choisissant un sportif qui a pu vous plaire ou compter à vos yeux. Pourquoi Zatopek? Pourquoi Mimoun Zatopek? Pourquoi ce choix, Jean Durie, d'évoquer la mémoire de Zatopek ce soir?
C'est une histoire d'amitié, parce que j'ai eu un grand privilège. C'est à l'Académie Olympique Internationale, donc dans cette Mecque du sport, si on s'intéresse au sport et si on y croit, j'ai eu la chance, un après-midi de 1966, d'être sur l'Altice d'Olympie, le guide d'Émile Zatopek, auquel j'ai fait visiter l'Altice, et nous étions tous les deux. Ça a été le début d'une amitié. Il a fait envoyer par-dessus le rideau de fer, ou par-dessous, si j'ose dire, dans un sac de sport, une paire de pointes pour le musée. Et de son côté, Mimoun m'a donné pour le musée, parce que j'étais très ami avec lui, le dossard figurant sur le dos de son maillot avec lequel il avait gagné ce marathon.
Champion olympique 56, Melbourne.
Et que sa femme a décousu sous mes yeux dans la petite vitrine de Champigny-sur-Marne. Mais cette histoire-là est tout à fait étonnante parce que en 1982, entre tant d'autres choses, je me suis trouvé être directeur du Festival international du film sportif qui se passait à Rennes, qui avait été fondé par un certain Nicolas Pila, président du CIDAL, et aussi dirigé par un Piala qui était un homonyme de Maurice Piala. J'en étais le directeur cette année-là et dans le jury, j'ai fait venir Zatopek. Zatopek, que ma chère femme Paul, que je salue, a conduit dans le train de la gare Montparnasse jusqu'à Rennes. Et là, bien entendu, il y a eu une rencontre de nouveau entre Zatopek et Mimoun. Mais tout cela, une fois le festival terminé, ça s'est achevé à Champigny-sur-Marne, dans la petite maison d'Alain, à un dîner où il y avait
Alain Mimoun.
Madame Mimoun, quelqu'un de l'ambassade tchécoslovaque qui suivait de très près Émile Zatopek.
82, hein, donc le mur n'est pas tombé, évidemment.
Et Émile. Et tous les deux, ils ont, à cette occasion, raconté leur début en galoche l'un et l'autre, parce que c'est quand ils étaient soldats que petit à petit leurs aptitudes à la course se sont révélées. Donc pour moi, Zatopek, qui a été un des très très grands champions de l'histoire,
bien sûr,
parce que il avait un style grimaçant qui montrait qu'il souffrait le martyr, mais ses jambes étaient impeccables, il a été le premier à courir 20 km dans l'heure, ça a été un extrêmement grand champion, c'était un homme charmant, et ça me rappelle cette amitié avec Émile et avec Alain.
Jean, en écho à cette amitié, et au son qu'on vient d'entendre de Mimoun qui parle de Zatopek, vous avez souvent répondu à la question « qu'est-ce que l'olympisme ?» Vous avez souvent répondu « une fraternité, voire un renverseur de cloison ». C'est une réponse que vous faites régulièrement dans vos écrits. C'est le cas d'ailleurs quand Mimoun évoque Zatopek, c'est assez beau, on sent cette fraternité sur la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, Jean Durie? Est-ce que l'olympisme est encore une fraternité?
Il est évident que si on assiste à une cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques encore aujourd'hui, et si on a la chance d'être dans le village olympique où tout le monde, athlètes, femmes, hommes, entraîneurs, ce sont vraiment des frères, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, on se dit, oui, grâce à Coubertin, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose. Mais pourtant, les Jeux Olympiques, ils sont pris dans ce qu'est le sport aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que le sport devienne un grand spectacle. Les Jeux Olympiques sont pris, eux aussi, dans le flot de l'argent et dans tous ces éléments qui sont l'évolution du sport d'aujourd'hui.
Jean, vous parlez du flot de l'argent. Il n'y a pas si longtemps, le sport vivait heureux à l'écart du politique et de l'économique. Est-ce que vous êtes un peu nostalgique d'une époque, pas si lointaine encore une fois, hein, où le sport vivait un peu plus sereinement, justement, à l'écart de l'argent et du pouvoir?
Mais pas du tout. Parce que, de toute façon, nous ne pouvons rien. Mmh. Le sport se fiche bien de nos exégèses. Le torrent furieux du sport aujourd'hui charrie un certain nombre d'éléments. Et alors, on a parlé de l'argent, on a parlé de la victoire à tout prix. Il y a le fait que cette règle acceptée par tout le monde, qui est le dénominateur commun du sport, est de plus en plus rejetée, contestée. Et puis, il y a ces violences de tous ordres, on a évoqué l'argent, il y a le problème du dopage qui est très 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 dur à maîtriser, il y a les délires qui aboutissent à ces hordes humaines allant jusqu'à mort d'homme parce que un arbitre n'a pas sifflé un pénalty ou parce qu'un joueur a raté un but, etc. Alors là, on délire et on a cette attitude exécrable de ceux qui viennent uniquement pour voir gagner leur équipe, leur favori, alors que ce qui est intéressant, c'est la beauté du geste sportif, même c'est celui de l'équipe adverse, bien entendu. Mais il n'y a pas à avoir de nostalgie. Le torrent furieux du sport va avec le monde d'aujourd'hui et nous ne pouvons que le constater et essayer peut-être de l'analyser pour changer un petit peu les choses.
Jean Durie, le sport c'est aussi une grande culture populaire, comme la chanson par exemple est populaire.
C'est une culture.
Absolument. Oui.
Dans un livre que vous avez, je crois, sous les yeux,
Le grand livre du sport, Jean Durie.
Je disais, le sport se vit. D'abord, le sport s'écrit, le sport s'image. Et dans l'encyclopédie, il y avait tout un texte sur les chansons cyclistes, et en particulier la chanson des frères Jacques qui disait « Tu moulines gaiement dans la bordure, t'as le guidon dans les dents et le cœur vaillant ». Or, sur l'éventail et la bordure, j'avais assez étonné un auditoire d'un colloque à Talence en 1992 qui s'appelait Sport et Culture, en leur montrant comme exemple du fait que le sport est une incarnation de la vie, l'éventail et la bordure. On va pas se lancer ici dans cette démonstration. L'éventail, c'est quand il y a du vent qui vient et il s'agit d'être dans l'éventail de tête. Sinon, les malheureux sont à manger de l'herbe dans la bordure, à essayer désespérément d'entrer dans l'éventail de tête. Sinon, la course est perdue. Et pour entrer dans l'éventail de tête, c'est vraiment la lutte pour la vie. Alors, cette fresque mouvante et colorée, c'est une image farouche et dynamique du sport et de la vie. C'est le genre de choses qui m'intéresse, parce que le sport, c'est un des secteurs, encore une fois, de l'activité humaine et qui mérite tout l'intérêt qu'on doit y porter, sans mépris, sans indulgence, mais avec
et
passion.
Et comme toute activité humaine, elle est dérisoire et passionnante.
Voilà,
hein,
c'est clair.
Pas mal, ça. Là, on parle de cyclisme, Jean Durie. En début d'émission, on a évoqué votre passion, hein, comme ça, avec la lecture des mémoires d'André Leduc, quand vous étiez gamin, puis cette passion pour devenir cycliste, et puis cette passion pour ce sport, vous venez d'en parler très bien. L'été dernier, il s'est passé une chose assez jolie. Vous étiez à Tavet, donc en Franche-Comté, dans votre village familial, ce pays cher à votre cœur, et le Tour de France est passé devant votre maison. Quel plaisir vous avez eu, j'imagine, à voir ce Tour de France passer devant chez vous.
Effectivement, c'était tout à fait émouvant pour moi, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est à 10 ans que sur ces routes de Franche-Comté, que quand je m'ennuyais au lycée, j'évoquais mètre par mètre, c'est sur ces routes que j'ai fait mes débuts de cycliste. Et à 14 ans, partant de Tavet, nous allions monter le ballon d'Alsace comme mon père, mais en faisant la boucle dans l'autre sens, c'était tout de même 120 kilomètres, ça n'était pas rien, et c'était un grand bonheur. Et c'est là qu'on commençait les courses, etc. Donc voir le Tour revenir, c'était évidemment très émouvant, et en particulier j'ai une pensée pour Raymond Poulidor, qui avait eu la gentillesse de s'arrêter, aussitôt tout le village était autour de lui. Raymond qui actuellement vit des heures, je crois, un peu difficiles.
Un peu difficile en effet, il paraît que ça va un petit peu mieux, on n'en sait rien, on verra. Bien. Et ce qui est intéressant, Jean, avec le vélo et le cyclisme, le Tour de France notamment, c'est qu'il faut bien dire aux auditeurs, nous sommes à la radio, combien le vélo c'est aussi une mélodie sonore. Un peloton du Tour de France qui passe devant la maison à Tavet, c'est une mélodie, Jean, vous en parlez très bien de ça.
Cette mélodie, on l'entend en particulier quand on est à l'intérieur du peloton, qui est la maison du coureur, oui. C'est celle d'où il s'échappe par l'avant ou dont il est lâché par l'arrière. Et alors là, bon, vous savez, sur mon premier livre, La vérité qui sort des gens de la route, j'ai eu mon bâton de maréchal, parce que c'était une préface éblouissante d'Antoine Blondin, qui se terminait sur ces mots, dignes d'Antoine, « Si, dans la bicyclette, l'essentiel, c'est la chaîne », Jean Durie en est un indispensable maillon. Ça n'était pas vrai, mais ça m'a tout de même fait plaisir à l'époque.
Eh ben oui, j'imagine bien. Juste pour finir, Jean Durie, en quelques mots, je profite de vous avoir sous la main. Nous arrivons à la fin de notre discussion. Qu'est-ce que c'est le sport pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça incarne le sport pour vous aujourd'hui, en quelques mots, pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Une définition du sport par Jean Durie en 2019.
Définition du sport, c'est difficile. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est important avec le sport, et pourquoi on s'y intéresse encore, quels que soient les problèmes que nous avons évoqués ou l'environnement, c'est parce que, dans l'acte sportif, l'être se révèle à nu. Alors que nous avançons masqués, avec des faux semblants, une incertitude si grande sur la planète d'aujourd'hui, eh bien là, il y a un instant, une seconde d'éternité, le sport impose sa vérité. Au jour, à la seconde, à la minute, à la seconde décisive, eh bien, on gagne ou on perd, on réussit ou on échoue. Et c'est cette authenticité dans le sport, cette amitié qu'il peut permettre, c'est cela qui m'y attache.
Un terrain de vérité.
Un terrain de vérité et terrain de chaleur humaine.
Et de fraternité et d'effort également aussi.
Bien sûr.
Absolument. Merci à vous, Jean Durie, d'être venu ce soir. Une mémoire vive du sport. Je précise à nos auditeurs qu'ils peuvent lire tout. Les livres de Jean Durie, c'est jubilatoire et passionnant, ces lectures des écrits de Jean Durie. Merci beaucoup Jean, prenez soin de vous. À très bientôt.
Merci.
Au revoir Jean. Et voilà, cette 9e émission de notre saison 5 a été coachée ce soir par H2M Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté ce soir à la technique de Paul Percheron. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'œil du tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scud et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine avec une alpiniste hors norme, Elisabeth Revol, une sportive de très haut niveau. Elle a conquis plusieurs fois l'Himalaya, elle a même failli y laisser sa peau. Vie et destin d'une alpiniste, rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine. Encore merci beaucoup Jean Durie, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie avec chaleur, vous qui vous dites mon héritier, ce qui est bien vrai, mais vous, vous avez déjà tenu 5 ans, ce qui est tout à fait remarquable.
Merci beaucoup Jean Durie, à bientôt, salut et fraternité.